Vous écoutez France Culture.
Question d'éthique, une émission hebdomadaire proposée par Monique Cantot-Sperber. Littérature francophone et francophonie, quelle mission, quelle valeur ? Avec Christiane Chollet au Chour. La francophonie est une maison pas comme les autres. Il y a plus de locataires que de propriétaires. Ainsi s'exprimait Tahar Benjelloun, auteur marocain de langue française, dans le premier numéro des Cahiers de la francophonie. Le terme de francophonie peut recouvrir un usage banal, la communauté de ceux qui parlent le français. Mais on ne peut en rester là. Parler français, oui. Écrire en français, certes. Mais où ? À côté de quelle autre langue ? Au terme de quelle histoire ? Et pour quels usages ? Merci Christiane Chollet au Chour d'être avec nous pour tenter de répondre à cette question, à ces questions, en cette journée de la francophonie qui est constamment présente sur France Culture. Vous êtes professeure de littérature comparée des littératures francophones à l'université de Cergy-Pontoise. Et vous êtes également l'auteur du Dictionnaire des écrivains francophones classiques,
oui,
qui est paru en 2010. Longtemps, la francophonie a désigné l'ensemble des productions culturelles, linguistiques, de ce qu'on appelait l'espace francophone, c'est-à-dire le vaste espace sur lequel la France, à un moment ou à un autre de son histoire passée, a exercé son influence, et quelles que soient les disparités économiques ou politiques survenues depuis. Est-ce que cette définition très générale de l'espace francophone tient encore ?
Oui, certainement en partie, cette définition tient encore. Mais si vous voulez, comme c'est assez complexe et contradictoire, je dessine et je découpe mon terrain à partir seulement des écrivains, de ce qu'on appelle les écrivains francophones et donc des francophonies littéraires au pluriel, puisque je pense que c'est peu à peu constitué des ensembles littéraires qui ont bien sûr la langue française comme expression littéraire, mais qui sont assez différents les uns des autres. Et c'est cela qui m'intéresse et qui est finalement assez peu en relation avec ce qu'on appelle la francophonie institutionnelle. Certains écrivains, oui, d'autres non. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce cortège d'œuvres, parce qu'il y a maintenant un nombre d'œuvres tout à fait impressionnant qui relèvent de cette qualification que la plupart des écrivains eux-mêmes n'aiment pas, mais qui pour nous, critiques, est très pratique, d'écrivains francophones, c'est-à-dire des écrivains qui souvent ont une autre langue d'origine ou en tout cas une autre langue dans leur bagage linguistique et qui ne sont pas, comme on dirait, franco-français, qui ont une autre culture, une autre langue, d'autres références à l'horizon de leur imaginaire. Et c'est comme cela que je les définirai, on pourra y revenir d'ailleurs.
Et qui font partie de la littérature de langue française et donc,
oui, bien sûr,
bref, de la littérature française aujourd'hui et qui sont parfaitement reconnus à ce titre. Donc vous insistez sur la singularité de ces différents espaces de création francophone.
Tout à fait.
Qui doivent être considérés en tant que tels et qui sont aussi divers les uns par rapport aux autres,
tout
aussi différents
fait.
Les uns par rapport aux autres qu'ils ne sont par rapport à une littérature qui serait produite par des écrivains français pour lesquels souvent le français est la seule langue d'expression artistique.
D'une part, et les seuls écrivains qui soient de façon constante transmis, enseignés dans les programmes de littérature, ce que ne sont pas les écrivains francophones, c'est déjà une de leurs grandes particularités.
Alors, ces écrivains de langue française et ces différents espaces de création que vous évoquez s'étendent sur le monde entier et dans des aires géographiques très distinctes les unes des autres, puisque ça va du Québec jusqu'à l'ancienne Indochine.
Tout à fait. Alors, je pense de toute façon qu'il y a déjà une première, un premier critère qui est, on va dire, géohistorique, hein, qui a à voir à la fois avec la géographie et avec l'histoire, qui est d'abord comment s'est fait l'extension de la langue française et de la France avec différents gouvernements, la royauté, puis après la Révolution, les républiques, et avec, bien sûr, l'expansion coloniale. Hein, donc tout ce grand empire colonial, et je pense qu'on a commencé à parler de littérature francophone d'abord avec ce qu'on appelle aujourd'hui, et qui est une de mes spécialités, les francophonies du Sud, qu'on distingue de celles du Nord, puisque par un jeu tout à fait intéressant et passionnant, par exemple quand on parle du Québec, on a affaire à une littérature où le français s'est imposé dans un territoire où il n'était pas une langue, on va dire, naturelle, et que peu à peu, par le jeu de la mainmise de l'anglais et de tout ce que cela... ils sont devenus en quelque sorte une langue... le français est devenu une langue dominée. Vous avez ainsi le Québec qui a accueilli beaucoup de Haïtiens à partir du régime de Duvalier. Et je pense en particulier à Dany Laferrière, qui va être prochainement reçu à l'Académie française, qui disait qu'il s'était réconcilié avec le français en arrivant au Québec et en découvrant le français comme une langue dominée. Vous voyez, donc, et c'est vraiment des situations très particulières. Et puis, il y a de plus en plus le territoire des écrivains de l'Est, où il y a des écrivains d'origine polonaise, roumaine, etc., qui utilisent le français, et dans une configuration géo-historique et politique un peu différente. Et puis je crois qu'il y a un quatrième grand territoire qui est celui de la France, où il y a des francophones en France, c'est-à-dire un certain nombre d'écrivains exilés, qui n'ont pas toujours eu une histoire, dont le pays n'a pas toujours eu une histoire conflictuelle avec la France, et qui se retrouvent en France... deviennent des écrivains francophones. Et en ce moment, je me remets un peu à jour sur, par exemple, les écrivaines iraniennes. Il y a de plus en plus d'écrivaines iraniennes qui écrivent en français. Et l'Iran n'a jamais été colonisé par la France. Donc, c'est encore... il y a toujours une histoire de domination, une histoire d'exil, une histoire de violence politique. Mais il y a un moment où l'écrivain qui décide d'écrire en français... il peut avoir connu cette langue par la contrainte, par toutes sortes de choses, mais à partir du moment où il est écrivain, il dit « j'écris dans cette langue », il choisit cette langue pour s'exprimer littérairement dans cette langue.
Mais précisément, on ne peut pas ne pas évoquer la situation d'ensemble du français aujourd'hui. Cette littérature francophone, cette littérature de langue française, d'écrivains qui sont maintenant des acteurs vivants de la constitution de l'histoire, de l'expression en français, souvent vivent dans un pays où l'emploi du français, l'usage du français tend à diminuer. Alors pour ces écrivains-là, que signifie la résolution d'écrire en français ou de continuer à écrire en français ?
Oui, c'est un peu difficile de vous répondre parce que c'est toute une question de la répartition linguistique dans les pays. La manière dont, dans certains pays, bien sûr, il y a toutes les langues africaines ou le créole dans la Caraïbe, l'arabe évidemment, et le berbère au Maghreb. Mais il y a il faut bien employer le terme, des guerres de langue, même si ce n'est pas des guerres par la violence, mais par une violence symbolique, qui fait que, d'abord, il faudrait être sûr que dans ces pays-là, le français recule. Si je prends le cas de mon pays, l'Algérie, il n'y a jamais eu autant de petits Algériens qui apprennent le français que depuis l'indépendance, même s'il y a eu des lois d'arabisation. Donc,
attendez, ce que vous venez de dire est très important, parce que l'image que l'on a, c'est qu'il y a aujourd'hui de jeunes Algériens qui n'apprennent pas le français, qui ne connaissent pas le français.
Quand dans certains endroits, il n'y a pas de professeurs de français, mais au niveau légal, toute l'école algérienne primaire est bilingue, c'est-à-dire qu'à partir de la troisième année du primaire, on apprend le français. Et comme il y a beaucoup plus de scolarisés depuis l'indépendance, il y a plus d'enfants qui... Et d'ailleurs, je crois que les gens qui voyagent en Algérie n'ont jamais de problème quand ils parlent français pour se faire comprendre.
Et la concurrence de l'anglais, le fait que tant qu'à apprendre une langue vivante en classe de primaire, l'anglais pourrait tenter certains plutôt que le français.
Il y a eu cette tentation dans les années 90, mais elle a vite été un petit peu mise de côté. Parce que choisir une seconde langue, une langue qui n'est pas la langue dite nationale, il faut la choisir aussi en fonction d'une histoire. Et on ne pouvait pas nettoyer, effacer une colonisation, quel que soit ce que l'on en pense d'ailleurs. Hein, mais au niveau de la langue, justement, la littérature algérienne de langue française était suffisamment riche pour venir nourrir un imaginaire qui n'était pas un imaginaire français, mais un imaginaire algérien.
Absolument, mais peut-on dire la même chose de l'Afrique de l'Ouest, par exemple ? Est-ce que le
Alors c'est, je vous disais tout à l'heure, je commençais comme cela après. Bon, c'est vrai que le Maghreb, c'est toujours plus simple parce qu'il y a deux langues plus le français. Donc on va, enfin disons trois langues, l'arabe classique, l'arabe parlé et le berbère. Mais dans les pays d'Afrique de l'Ouest, il y a plusieurs langues. Et que cela plaise ou non aussi, il faut bien reconnaître que le français comme langue écrite d'abord est toujours enseigné et que cela représente une langue de création qui est partagée par le plus grand nombre. Peut-être pas au théâtre, peut-être pas au cinéma. Hein, il faudra ensuite entrer dans les différents genres littéraires et artistiques et se dire aussi que les situations évoluent. Il n'y a jamais une situation qui reste définitivement stable. Peut-être qu'un jour, il n'y aura plus de littérature francophone, mais manifestement, depuis 40 ans au moins que je travaille dans ce domaine, j'ai toujours rencontré des critiques qui annoncent la fin des francophonies littéraires et elles continuent à s'enrichir, à produire de nouvelles œuvres et à être finalement, bon an, mal an, la fierté des pays qui produisent ces écrivains.
Qui ont eu, à un moment donné, souvent des circonstances douloureuses, l'influence française ou la domination française comme une part de leur histoire. D'ailleurs, il est possible que l'usage du français pour un écrivain soit investi aujourd'hui d'une valeur particulière, peut-être même d'une valeur de résistance donc qu'on ne pouvait pas imaginer il y a 30, 40 ou 50 ans. Là, il y a une très grande plasticité des enjeux dont une langue d'expression peut être saisie.
Oui, mais vous savez, très vite, hein, les écrivains de langue française de ces différents pays, même pendant la colonisation, les grands écrivains n'ont jamais été des écrivains qui étaient uniquement des mimes de leur maître. Hein. Ils ont pris une langue qui était le français et très vite, ils ont investi tout ce qui était tu dans la culture officielle. Donc déjà, par ce côté-là, ils étaient en état de rébellion, de révolte, même si ça se faisait en douceur et avec humour, comme avec un Mouloud Feraoun ou un Kamar Alaï, et si ça se faisait de façon plus directe, avec un Kateb Yassine, avec un Dib, avec d'autres écrivains, avec Mongo Betty, avec d'autres écrivains, ainsi, avec Aimé Césaire. Et je ne crois pas que les plus grands de ces écrivains soient des écrivains dociles à un apprentissage, parce qu'ils ne sont pas des écrivains à ce moment-là.
Alors revenons sur la situation existentielle, si je puis dire, et peut-être morale également, des écrivains de ces littératures francophones, de ceux qui illustrent cette réalité de la création de langue française, même si bon, il est hors de question de faire des généralités alors que tous les cas sont spécifiques. Mais la plupart de ces écrivains, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sont bilingues ou même trilingues, c'est-à-dire ils vivent dans des sociétés où souvent la langue d'usage le plus courant n'est pas le français.
Tout à fait.
Donc c'est un geste de... Déjà, il se situe dans un contexte culturel imaginaire, puisque la création littéraire a à faire avec l'imaginaire linguistique aussi, de différenciation des niveaux de langage ou des modes de langage ou tout simplement du choix de langage.
C'est tout à fait exact, mais ça je crois que c'est déjà... Alors c'est porté à l'extrême quand quelqu'un a une autre langue dans laquelle il s'exprime au quotidien, mais c'est le cas de tout écrivain. Aucun écrivain, même dans sa langue maternelle, n'écrit comme tout le monde parle. Hein.
Alors, c'est exact. De nos jours, vous savez, il y a beaucoup de licences en littérature. Ne parlent pas comme ils écrivent.
On va essayer de rester avec des écrivains qui transcendent un peu la langue quotidienne. Et je crois que ces écrivains, surtout ceux d'aujourd'hui, ont eu quand même deux ou trois générations d'aînés déjà qui se sont confrontés à cette question. Je veux dire que le jeune Martiniquais aujourd'hui, n'est pas dans la situation où était Aimé Césaire en 1930. C'est-à-dire que les Césaire et autres ont balisé le terrain.
Ils étaient des pionniers.
Et eux, ceux d'aujourd'hui, ont des aînés. Même si c'est des aînés qu'ils rejettent, qu'ils critiquent, etc., n'empêche qu'ils ont des aînés. Et ça, je crois que c'est très, très, très important. Il faut en tenir compte. Hein. Je me souviens bien de Tahar Jaoud, l'écrivain algérien qui a été assassiné en 92, qui disait « Mais moi, mon modèle, ma référence, c'est Mouloud Feraoun, c'est Kateb Yassine. Donc, je suis écrivain francophone peut-être, de langue française peut-être, mais je suis avant tout un écrivain de cette lignée-là. » Voyez. Et ça aussi, je crois que peut-être on n'en tient pas assez compte quand on parle des écrivains francophones ou des écrivains de langue française. Oui, il y a eu plusieurs générations déjà.
Mais alors justement, approfondissons cette question de la différenciation des langues. Est-ce qu'elle recoupe ou est-ce qu'elle recouvre une forme de compétition symbolique, des enjeux symboliques dans la volonté de s'exprimer en telle ou telle langue ? Et c'est difficile, évidemment, pour des écrivains qui sont, eux, dans un contexte culturel de langue unique, de monolinguisme, oui, en quelque sorte, ce qui est le cas de la plupart des écrivains qui sont français, entre guillemets, qui n'ont pas l'habitude d'écrire en plusieurs langues. Souvent, ils n'écrivent qu'en une seule langue, c'est le français. Est-ce qu'il y a, pour ceux qui ont une expérience de vie un peu différente, est-ce qu'il y a un rapport d'étrangeté à la langue ? C'est-à-dire, est-ce la langue française dans laquelle on choisit de s'exprimer, ce qui n'empêche pas de s'exprimer également dans une autre langue, en particulier dans d'autres supports artistiques comme le cinéma, on se pose toujours la question de savoir quel degré de familiarité extrême, quel degré de co-appartenance, quel degré d'étrangeté.
Je crois que l'écrivain est celui qui est sans cesse occupé par cet outil qui est le sien, par la langue. Et c'est une critique littéraire québécoise, Lise Gauvin, qui a fabriqué une notion que je trouve très, très efficace, qui est celle de surconscience linguistique. Elle dit « Tous les écrivains ont toujours à leur horizon qu'est-ce que la langue, comment. » Mais les écrivains francophones, je les définirais comme ceux qui ont une surconscience linguistique beaucoup plus développée que les autres. Alors, ce n'est pas un handicap, au contraire.
Au contraire, on peut considérer que c'est une condition de création d'autant plus aiguë.
Tout à fait.
Et
pour je pense à quelqu'un qui était une grande écrivaine francophone, qui était Elsa Triolet. Elle disait, en tant que russe, puisqu'elle avait écrit en russe avant d'écrire en français, « J'arrive au français pour réveiller la belle au bois dormant qu'est la langue. Les Français ne se rendent plus compte souvent de l'importance de certaines expressions, de certains mots. Et moi qui arrive au français avec une autre langue et en prenant cette étrangeté de la langue dont vous parliez, j'y arrive et je réveille une langue, je réveille des expressions parce que je n'ai pas la familiarité qui va en masquer la virtuosité, la beauté, la musicalité, etc.
Mais c'est tout à fait juste. D'ailleurs, on peut s'étonner aussi dans la même lignée que deux des plus grands poètes du XXe siècle aient eu à côté du français une autre langue maternelle. C'est le cas de Valérie, oui, dont la mère était italienne, et le cas d'Apollinaire, bien évidemment.
Mais je pense que c'est pas un hasard.
C'est quand même tout à fait caractéristique, surtout pour Apollinaire, cette musicalité, cette sorte de création très profondément musicale dont l'œuvre d'Apollinaire témoigne, qui est liée en effet étrangement à peut-être une sorte de surconscience d'aspect du français qui ne sont peut-être pas sensibles de la même façon des francophones
sûrement
exclusifs. Là,
où et c'est pour cela que, bon, on peut historiquement définir les écrivains francophones, différents courants. Il y a toute une histoire maintenant littéraire des francophonies. Mais aujourd'hui, moi, je suis assez portée à considérer certains écrivains français comme des écrivains français et d'autres comme des écrivains francophones. Pour moi, par exemple, Clézieux est un écrivain francophone. Parce que il écrit, comme disait Glissant, en présence de nombreuses langues et en en possédant lui-même certaines, en possédant d'autres imaginaires, d'autres espaces de référence. Enfin, il n'est pas dans l'ici seulement de la France, il est dans l'ici et l'ailleurs. Et je serais tentée de voir un certain nombre d'écrivains français rejoindre les préoccupations qui sont celles des écrivains francophones.
Oui, surtout quand les écrivains ont vécu longtemps à l'étranger ou connaissent très bien une ou d'autres langues. Alors, dans ce rapport à la langue d'expression artistique, on peut imaginer toutes sortes de développements. Y a-t-il des écrivains francophones qui ont à un moment abandonné le français ou décidé pendant un temps de ne plus écrire en français ? Y a-t-il des écrivains qui se sont servis du français, par exemple, comme d'une langue de transgression par rapport c'est le cas peut-être de certains écrivains du Maghreb pour lesquels l'expression en certaines choses ne pouvait peut-être pas être dite de la même façon en arabe, le français offrant une liberté presque transgressive que leur autre langue ne leur donnait pas. Est-ce que ces cas de figure, j'imagine, existent ?
Bien sûr, ces cas de figure existent. D'abord, je répondrai à la question de ceux qui ont abandonné le français pour retourner à leur langue, entre guillemets. Mais d'abord, donc, la transgression. Je pense que la transgression est toujours plus difficile. C'est pas le français qui a intrinsèquement une qualité de libération. C'est le fait que dans la langue qui nous est quotidienne, dans la langue qu'on parle avec nos parents, etc., certaines transgressions sont très difficiles. Alors que dans la langue de l'autre, dans la langue qu'on a apprise, hein, la transgression vient plus facilement. Et je pense que l'inverse pourrait se faire. C'est-à-dire si un écrivain de langue française maternelle, originelle, qui écrit en français et qui va apprendre l'arabe ou le wolof, il va arriver à transgresser beaucoup plus facilement dans la langue étrangère, qui est pourtant sa langue. Dès l'instant qu'elle est devenue une langue d'expression, elle est sa langue. Ça, moi, je ne crois pas que l'écrivain qui écrit en français soit un écrivain contraint. Un écrivain ne peut pas être contraint dans la langue d'expression. Ça, c'est impossible. Il choisit. Elle devient sa langue, il en fait son instrument. Alors, pour ce qui est de la rupture, eh bien, il y a des exemples un peu partout, parce que l'expression linguistique, ce n'est pas seulement un libre choix au sein de l'individu, c'est aussi par rapport à une collectivité, une communauté. Bon, vous avez des ruptures de changement de langue. On a le cas de Rachid Boudjedra en Algérie qui est revenu à l'arabe. Mais on a aussi des écrivains comme Kateb Yassine qui ont arrêté d'écrire en français, mais qui ont été vers le théâtre. Le théâtre en arabe dialectal. Donc, il a été vers une autre transgression. On a Simban Ousmane qui a opté pour le cinéma en wolof ou dans les différentes langues du Sénégal. Mais ce qu'on remarque, c'est que ces écrivains sont toujours restés dans un cheminement de subversion, parce qu'ils ont été vers les langues parlées, qui n'étaient pas les langues officielles de leur pays. Oui.
Alors, évidemment, là maintenant, les littératures francophones s'imposent totalement en France. Elles sont pleinement reconnues, je pense, sur la scène littéraire. On cite souvent l'année 2006, où le Goncourt et le Grand Prix du roman de l'Académie française ont été attribués à Jonathan Little, le Femina à Nancy Huston, le Renaudot à Alain Maboncou. Et le Goncourt des lycéens à Léonora Miano. Alors vraiment, c'est un palmarès de ce qu'on appelle les littératures francophones qui était tout à fait spectaculaire et qui était vraiment reconnu comme des écrivains œuvrant à cette espèce de gigantesque patrimoine littéraire de la langue française qui se constitue de tous côtés. Alors il est intéressant de comparer avec ce qui se passe pour la littérature de langue anglaise, parce que là aussi, on a affaire dans le cadre du Commonwealth à des cultures d'expression très, très différentes. Les Australiens, les Néo-Zélandais, les Indiens, évidemment, les Pakistanais, qui écrivent tous en anglais. Alors, j'étais tout à fait intéressée par une expression de Salman Rushdie, qui est directement concernée par cette affaire-là, et qui, au fond, était extrêmement réservé à l'égard de l'expression écrivain du Commonwealth, parce qu'il disait que ça signifiait qu'à ce moment-là, la littérature anglaise n'était pas la littérature de langue anglaise, mais la littérature produite en Grande-Bretagne, alors que la littérature anglaise, ça doit être la littérature de langue anglaise, après tout.
Oui, mais ça, c'est un débat qu'on a toujours avec les écrivains. Et tout à l'heure, en commençant, je vous avais dit que moi, ça ne me gênait pas de parler d'écrivains français francophones, parce que ça établissait une distinction qui correspondait à une réalité. Maintenant, si la distinction est discriminante, bien sûr que c'est gênant. mais peut-être qu'il faut travailler à ce que la distinction ne soit plus discriminante et continuer à faire, à être dans la diversité, parce que c'est une question de diversité. Amin Maalouf aussi avait réagi au moment de 2006 très très violemment à l'expression d'écrivain francophone, dont il est pourtant un exemple tout à fait parlant. Alors, je crois que c'est une question de qualification et que les écrivains ont toujours, rêvent toujours d'être écrivains tout court. Et oui, mais on n'est jamais écrivain tout court.
On est toujours dans une sensibilité, voilà. Dans un monde esthétique et dans un monde culturel. Surtout, remarquez, quel écrivain suisse-allemand accepterait d'être présenté comme faisant partie de la littérature allemande, il ne serait pas du tout content non plus.
Oui, mais enfin, on voit, quand on lit les écrivains suisses, comment ils ont un peu se sont ressentis comme une périphérie de la littérature française, ça montre bien qu'il y a un problème là.
Ramus, peut-être plus à l'égard du français qu'à l'égard de l'allemand. Enfin, je ne sais pas. Il faudrait.
Et donc, je voulais aussi souligner que les écrivains du Commonwealth ont l'avantage sur les écrivains francophones, si je prends les programmes d'université, d'être assez volontiers mis dans les programmes des universités, ce qui n'est pas du tout le cas des écrivains francophones.
Oui, mais j'ajouterais qu'ils sont pleinement reconnus comme écrivains contribuant au trésor de la littérature de langue anglaise depuis une quarantaine d'années.
Voilà,
ce n'est pas le cas non plus des
Je crois que c'est une grande différence et que pour cette reconnaissance à travers les prix littéraires de 2006 et quelques autres après, oui, d'accord, mais dans un certain espace du champ littéraire, dans ce qui est transmission, dans ce qui est enseignement, les écrivains francophones en France ne sont pas reconnus.
Alors, pour conclure, parce que ce n'était pas l'objet de cette émission, ceux qui ont contribué à les écarter, aussi, ou du moins à écarter l'expression de francophonie, ce sont ceux qui, en tout cas les porteurs de ce fameux manifeste de littérature monde, qui disait sans défini de la francophonie, maintenant il n'y a plus la littérature qui compte, c'est celle qui parle du monde dans toute sa multiplicité, sa diversité, et un certain nombre de catégories, comme celle dont nous avons parlé aujourd'hui, non plus court, la littérature monde se trouvant opposée à la fois la littérature française et à la littérature francophone. Alors nous n'allons pas étudier cette notion qui a été louée par certains, critiquée par d'autres, mais que pensez-vous de cette revendication ?
Bon, moi je pense que déjà la littérature monde, elle a un peu disparu. Elle a presque, parce que la littérature francophone a toujours été ouverte sur le monde. Et que tout ça, c'est une question de terminologie, de façon d'essayer de bouger les lignes pour faire entrer plus de choses. Mais quand on lit le manifeste de la littérature monde, tous les écrivains qui ont écrit là, à part quelques-uns, ce sont tous des écrivains francophones. Et ils n'ont pas dit autre chose que ce qu'ils disaient avant qu'il y ait le manifeste. Hein, Marie Skonda dit qu'elle écrivait en Condé. Mabankou s'est exprimée aussi. Enfin, moi, je n'ai pas trouvé de choses absolument nouvelles. Et c'est une façon de se qualifier. Bon, si ça fait avancer les choses, mais je n'ai pas l'impression que ça ait changé grand-chose. Moi, je suis un peu têtue dans l'idée de transmission, sans doute parce que je suis une enseignante. Mais je dis, bon, qu'on parle de littérature monde ou de littérature francophone, ces écrivains n'ont pas plus droit de citer dans la cité du savoir transmis. Les lycées, les universités, alors tout ça, pour moi, me semble un peu faux débat.
Merci Christiane Chollet-Auchour pour cette discussion. Merci à François Connat qui a réalisé cette émission. Merci à Éric Boisset qui était à la technique. Et merci à Marie Dalquier. La semaine prochaine, nous parlerons des événements de Syrie, de la tragédie qui s'y déroule et bien sûr des questions morales directement liées à une possible intervention avec François Burger.
Un grand carrefour converge les cultures du nord au sud, de l'est à l'ouest. Autant de tenir, autant de races, autant de peuples, autant de langues et ses langages, et ses langages. francophonie.
Tout de suite, vous retrouvez Marie Richeux pour Pas la peine de crier. Et quant à moi, j'espère vous retrouver jeudi prochain. D'ici là, très bonne semaine à tous.